Grosse transaction, Pierre-Yves, Canadian Tire qui met la main sur le fabricant de vêtements, réputé d'ailleurs, de vêtements sportifs norvégiens, Helly Hansen.
On est loin, Paul, de l'époque où Canadian Tire était gratteux avec Michel Forgette. Écoute, on est à une époque où maintenant, les biens d'un compagnie Canadian Tire sont plus, un plus large éventail. Et là, on est allé chercher des vêtements de sport pour 985 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à aller augmenter l'offre chez Sport Expert, dans le fond, qui c'est son créneau, ce genre de vêtements-là. On cherche, dans le fond, à aller chercher un partenaire qui est maintenant intégré, un partenaire équivalent à The North Face, c'est-à-dire Helly Hansen. Donc, Canadian Tire veut devenir un des plus grands détaillants dans le réflexe des consommateurs au Canada. Et quand on regarde les états financiers, juste pour un trimestre, 2,8 milliards de revenus pour la société mère, le Inc., et un revenu net de 99 millions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une hausse des frais de vente et d'administration, que dans l'information sectorielle, Paul, ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que qu'est-ce qui est payant? C'est quoi? C'est les services financiers. Chez Canadian Tire, on a beau faire 2,5 milliards de revenus dans le trimestre avec des ventes au détail, ce qui est payant pour la marge, c'est les services financiers. Ce sont les services financiers qui génèrent le plus de revenus avant impôts. Donc, même si on vous vend beaucoup de choses, c'est tout ce qui finance tout ça qui est payant, les cartes de crédit, les avantages, les services de points, tout ça est plus payant que vendre du matériel chez Canadian Tire. C'est assez facile.
Les garanties prolongées?
Ben, tout ça, tout ce qui est services financiers, Paul. Écoute, on s'en va jusqu'à l'action, d'ailleurs, qui était en 2009 à 39,83 $ environ. On est rendu à 165 $, donc, qui donne quand même un bon rendement. Et sur un an, on a 5,6% de rendement. Mais c'est voir comment Canadian Tire est passé du magasin de pneus à l'époque à un magasin de détail à avant Atmosphère, mais Sport Expert et tout ce qui est détail maintenant.
Moi qui suis plus vieux que toi quand même, moi je me rappelle des magasins Canadian Tire quand ils se spécialisaient exclusivement dans le pneu. T'allais chez Canadian Tire pour des pneus.
D'où le nom, Paul.
Ouais, non, je comprends, c'est évident. Sauf que, graduellement, on a étendu ça à des pièces d'auto. Ouais. Et puis, des pièces d'auto, on est allé dans les services de nettoyage pour les voitures, les cires, les ça. Tout à coup, bang, on commence à voir apparaître des instruments de cuisine, des trucs pour la famille, pour la cour.
Les outils, Paul, les outils.
Et les outils.
Ils ont le truc, le marketing, c'est qu'ils font les allées. Puis, il y a des outils comme 4-5 affaires vraiment spéciales.
Attaché avec
vraiment
des chaînes derrière une vitre.
Et non, mais tu sais, vraiment, non, pas rien que ça, même les choses dans le milieu de l'allée, tu sais, comme ce set de ratchet et au clé à molette est seulement 269 $, maintenant est à 39, tu l'achètes pas cette semaine, ça marche pas. Et il y a aussi tous les produits que les marchands sont indépendants, hein. Les marchands Canadian Tire sont indépendants quand même de la maison mère pour certaines dispositions, et on met des produits achetés par les marchands à l'avant, près des caisses, donc il y a une certaine section que le marchand a un certain pouvoir. Paul.
Nous avons pensé que vous seriez intéressé par ceci. Ça, j'aime ça, hein. Quand on vous venez de faire une vente, pas une vente, un achat, vous venez d'acheter ci, et beaucoup de gens ont également acheté ci, puis on vous le propose.
Amazon est bon là-dedans, Paul. Mais si vous êtes le genre à aimer ça, regardez les gens qui se sont intéressés à ça, ont acheté ça aussi.
Exactement.
On joue dans notre cerveau.
Ouais. La Banque du Canada hausse son taux de qualification hypothécaire.
Oui. Donc, dans le fond, là, depuis quelque temps, qu'on prenne un prêt assuré ou non assuré, qu'on ait 20% de mise de fonds ou non, il faut se qualifier maintenant comme emprunteur avec un taux de grille qui est moyen d'une certaine période. Et là, on se retrouve avec la Banque du Canada qui dit « Attendez, là, toutes les banques canadiennes augmentent leur taux de grille, faut augmenter le taux de qualification. » Donc maintenant, on passe de 5,14 à 5,34, ce qui veut dire que vous devez être capable de payer 5,34% sur votre prêt hypothécaire pour vous qualifier dans les calculs à l'emprunt. Même si vous finissez par négocier 3,5% ou 3,3% avec votre banque, maintenant la banque dit c'est 5,34 que vous devez être capable d'absorber. Donc, une espèce de 2% de plus que le taux négocié pour être capable d'absorber une variation de taux. C'est pour protéger le marché.
Mettons que quelqu'un emprunte 100 000. Une hypothèque de 100 000, donc 5,34% du 100 000, donc un peu plus de 5 300 $.
Oui, avec une dégression évidemment au cours de l'année parce qu'il y a des paiements de capital, mais t'as raison, Paul, ajoute à ça que ça impacte les maisons. Ça veut dire que maintenant, les gens vont se qualifier pour des plus petites maisons qu'avant pour le même revenu. Ça veut dire qu'on va acheter peut-être dans des secteurs un peu plus éloignés. Ça veut dire qu'on va peut-être ralentir le marché sur les premiers acheteurs. Donc, ce qu'on tente de faire ici, c'est de calmer le marché des emprunts. Parce que les gens sont habitués d'avoir des paiements très faibles, avec des taux très faibles, parce que les maisons sont accessibles. C'est pour ça que le prix des maisons monte. Mais là, il n'y a plus de logique, Paul. Tu viens pour acheter une maison, puis il n'y a plus de sens.
En terminant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de David Tee, quelques jours, quoi. Le conseil d'administration qui monte le ton.
Oui, là, on dit à M. Siegel, écoutez, là, M. Siegel veut faire ce qu'on appelle une prise de possession du conseil d'administration. Donc, nommer son monde, aller dessus et refaire la stratégie de David Tee. Mais là, il faut faire attention. David Tee dit, faut qu'on se redresse. David Tee, c'est un mauvais plan d'affaires parce qu'on est allé dans une direction où il ne fallait pas aller. Et il était là, M. Siegel, au début. On regarde ça. Dans le fond, prenons Camellia Sinensis, qui est un espèce de concurrent pour les gens qui s'intéressent au thé. Une vision asiatique du thé. Tranquille, relax, croissance très, très lente. Des passionnés de thé qui vont faire des voyages, qui sont des passionnés, qui sont eux-mêmes des porteurs de la mission du thé. Chez David Tee, on a dit, on va prendre un modèle commercial du thé et on va commencer à vendre ça comme des biscuits Ritz. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis en place beaucoup, beaucoup de succursales, on a mis ça en bourse, on a généré beaucoup de coûts fixes, on a mis de l'éclairage pimpant, on a mis des gens au salaire minimum qui connaissent pas nécessairement ça, mais qui aiment ça, et on a créé des saveurs de thé à saveur de licorne. Mais au bout du compte, Paul, est-ce qu'on a respecté l'essence même du produit? Du thé, c'est de la relaxation. C'est de l'infusion. On met des poches de thé dans de l'eau. On garde ça pendant des heures. On en refile, on recommence, on réinfuse. C'est pas rentable le thé au niveau capitalisme parce qu'un chip sur le thé, Paul, et j'en fais partie, tu peux faire deux bonnes théières avec les mêmes cuillères à thé de thé. Ouais. C'est sûr que ça goûte pas pareil à deuxième
non,
tailleur.
Non, ça goûte pas pareil.
Mais il y a l'impact. Et là, on regarde les états financiers, ben on voit tout de suite ce qui se passe. Les coûts fixes, c'est pour l'année, la dernière année terminée le 3 février 2018. Oui, on a 224 millions de ventes, mais on génère des résultats opérationnels négatifs. On perd 25 millions. Ajoute à ça, évidemment, le net des autres charges. On tombe avec une perte nette de 28,5 millions. C'est pas juste un nouveau plan avec des ventes Internet qu'il faut. C'est revoir complètement le modèle d'affaires. C'est comprendre qu'on ne vend pas du thé comme on vend du café. On a manqué notre coup.
Il faut savoir lire dans les feuilles.
Oui, Paul, et infuser la réflexion du marché du développement et pour en arriver à un goût parfait au niveau des profits.
Merci beaucoup et à demain.
Salut.